Bonjour et bienvenue à ce 45e épisode des Gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci. On parle de l'once d'or qui a franchi cette semaine la barre symbolique des 2 000 $ américains l'once. La valeur du métal jaune là, qui est en hausse de près de 35% depuis le début de l'année, ce qui en fait peut-être un des actifs qui a le mieux performé depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui explique que l'or, comme d'autres métaux précieux, peut-être dont l'argent, qu'est-ce qui explique que l'or est si populaire depuis le début de l'année selon vous?
Ben, c'est pas quelque chose que j'essaierais d'expliquer parce que bon, c'est ma vision personnelle des choses, mais l'or, c'est très, très difficile à évaluer. Est-ce que ça vaut 2 000 $ l'once? Est-ce que ça en vaut 1 000? Est-ce que ça en vaut 500? Il n'y a aucun barème qu'on peut utiliser pour évaluer l'or. Donc, contrairement, par exemple, à une compagnie qui génère des profits, qui donne un dividende, ben, sans être très précis, on peut quand même avoir une idée approximative de sa juste valeur. Nous, c'est une des raisons qu'on n'investit pas dans l'or. C'est pas un actif productif. C'est pas un actif qui produit des revenus, qui produit des profits. Donc, ça rend ça totalement impossible à évaluer.
Le fait chez Giverny Capital, là, évidemment, vous venez de le dire, vous avez comme philosophie de ne pas investir dans l'or, comme dans tout type de métaux précieux d'ailleurs.
C'est sûr qu'en général, les commodités, je pense que c'est extrêmement difficile à prévoir. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Certaines commodités sont utilisées à des fins industrielles. Donc, il y a peut-être une valeur plus liée aux besoins économiques là, de l'industrie. Mais dans le cas de l'or, c'est principalement utilisé à titre de valeur refuge, de gens qui veulent acheter l'or, pas pour des applications industrielles, mais juste à titre d'investissement. Donc là, ça rend ça encore plus difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas vraiment d'application là qu'on peut comme l'intégrer, si vous voulez, dans un écosystème économique, là. Quand j'ai commencé à investir il y a bien des années, même quand j'étais jeune, j'ai commencé à m'intéresser à l'or. Je pense que l'or avait frappé 800 $ en 1980. Puis on est là 40 ans plus tard, puis elle se franchit à 2 000 $. Pour moi, ça me semble pas un placement qui, à très long terme, a très bien fait, là. Je pense que si quelqu'un qui investit juste dans le S&P 500 a fait de bien meilleurs rendements sur une longue période. Je pense qu'en général, les gens devraient focusser sur trouver des actifs productifs, des actions de compagnies qui génèrent des profits, génèrent des dividendes, puis qu'on peut évaluer. Ça ne veut pas dire que toutes les compagnies listées en bourse sont des bons placements pour autant. Il faut pouvoir être capable d'évaluer une compagnie et aussi, ben, idéalement, de l'acheter en bas de sa juste valeur, là. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, c'est ça, être un investisseur de valeur. On évalue combien un actif vaut, puis on essaie de l'acheter bien en bas de cette valeur-là, là. Donc, ça nous permet, un, de nous laisser une marge d'erreur, et deux, ben, d'espérer de réaliser un bon rendement à cet actif-là, là. Mais quand la première étape, c'est de ne pas être capable de l'évaluer, là, après, ça devient bien difficile de prendre une quelconque décision.
Et on parle des faiblesses de l'économie américaine et du dollar américain pour expliquer la popularité de l'or en ce moment. La semaine dernière, les données sur le PIB américain ont montré officiellement là, que les États-Unis étaient entrés en récession. Et pourtant, depuis ce temps-là, la bourse a poursuivi sa remontée. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça?
C'est sûr que quand on essaie d'expliquer à court terme les mouvements de la bourse, ça semble parfois très mystérieux. La bourse a baissé quand même passablement au mois de mars. Je pense du haut au bas, le S&P 500 a reculé de 35%. C'est à ce moment-là que la bourse a reflété la récession dans laquelle on est aujourd'hui, parce que la bourse a tendance à escompter au moins 6 mois d'avance ce qui va arriver à l'économie. La bourse avait déjà reflété cette baisse et, à tort ou à raison, en ce moment, la bourse semble vouloir refléter qu'elle s'attend que, éventuellement, assez prochainement, il va y avoir une reprise économique, là.
Le Nasdaq qui est à un sommet historique malgré tout, le Standard & Poor's 500 qui a pratiquement récupéré toutes ses pertes depuis le mois de février, depuis son sommet de février. Par contre, là, avec le Standard & Poor's 500, vous voulez mettre l'accent sur le fait qu'il y a peut-être le Standard & Poor's 5 et le Standard & Poor's 495 en ce moment à la Bourse de New York.
Ouais. C'est ça, j'appelle ça le S&P 495, mais je pense que dans les faits, c'est 497, parce que de mémoire, je pense qu'il y a 502 compagnies dans le S&P 500 pour une raison que je ne connais pas, là. Mais si on focus sur le top 5 du S&P 500, qui sont Amazon, Microsoft, Facebook, puis
Apple et Google.
Action. Apple, ouais, Apple et Alphabet.
Alphabet.
Donc, si on prend ces cinq compagnies-là, je pense qu'ils composent à peu près au 30 juin, là, 22 % de la valeur de l'indice. Donc, l'autre 495, c'est 78 % de la valeur. Donc, on voit qu'il y a une grosse concentration dans cinq compagnies. Et au 30 juin, ces cinq compagnies-là avaient eu un rendement de 25 % pour l'année 2020. Et tout le reste des 495 a eu un rendement autour de moins 9 %. Ce qui a fait que le S&P 500 au 30 juin faisait moins 3 % là, en dollars US. Donc, c'est une très grande différence entre les cinq grandes compagnies américaines, toutes dans le domaine de la technologie, et le reste du marché américain. Alors, c'est une expérience assez différente pour ceux qui ont investi dans ces titres-là assez populaires. Et je dis populaire parce que leur évaluation boursière est quand même assez élevée. Si on regarde le top 5, je pense que le cours bénéfice moyen sur 2021 est à peu près de 31 fois.
31 fois les bénéfices?
31 fois les bénéfices estimés en 2021.
Okay.
Tandis que si on regarde le S&P 500 étranger à peu près à 19 fois en moyenne, donc on pourrait conclure que l'ensemble des autres compagnies étrangères à peu près à autour de 16 fois les profits. Donc, il y a une très grande disparité. Si on est dans le top 5, étrangers à 31 fois, si on est dans les 495 autres, le pays moyen est 16 fois. Donc, il y a vraiment une très grande polarisation en ce moment, autant en termes de performance qu'en termes de popularité dans les très, très grandes entreprises technologiques. Qui sont d'ailleurs exceptionnels. Là. Je ne dis pas que ce n'est pas mérité là, comme évaluation. Là. C'est juste qu'à un moment donné, les compagnies deviennent tellement grosses, tellement dominantes, que ça va être difficile pour ces entreprises-là de continuer à croître à des ratios plus élevés que la moyenne. Je ne dis pas qu'on est rendu là, mais éventuellement, on va se rendre là. Là. Donc, ça va être plus difficile à un moment donné de mériter un cours-bénéfice très élevé. Là.
Merci beaucoup, M. Rochon.
Ça fait plaisir.